Well, if I lived in China, I'd have some Chinese children. Yeah, if I lived in China, I'd have some Chinese children. Well, if I lived in China, if I lived in China.
Marseille, portrait chinois. Les nouvelles vagues de migration chinoise, un entretien avec Karine Gerasimov, sinologue et politologue. La France est avec les Pays-Bas et la Grande-Bretagne l'un des plus anciens centres d'installation des communautés chinoises de la République populaire de Chine en Europe, populations qui viennent essentiellement de la province du Zhejiang. Depuis le début des années 2000, Marseille voit s'installer de plus en plus de ressortissants chinois, dont la présence est particulièrement visible à Belzunce, le quartier des grossistes en textile. Longtemps perçu en France comme un modèle d'intégration, sans doute à cause de sa discrétion, l'immigration chinoise exacerbe aujourd'hui la méfiance des autres habitants, notamment depuis que l'Organisation mondiale du commerce a aboli les quotas douaniers sur le textile en 2005. Pour ne pas en rester au fantasme d'un nouveau péril jaune et mieux comprendre la migration chinoise d'aujourd'hui, nous vous proposons une série de 5 reportages et entretiens sur la présence chinoise à Marseille. Dans cette première émission, nous laisserons la parole à Karine Gerasimov, que nous avons rencontrée à l'occasion d'une conférence qu'elle donnait à Espace Accueil aux étrangers, à Marseille. Karine Gerasimov est sinologue et politologue. Elle étudie plus particulièrement les mouvements migratoires chinois.
Sur Marseille, j'ai pas fait d'enquête particulière.
Karine Gerasimov.
Mais bon, j'ai quand même étendu mon champ de recherche à l'Europe, l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas, et on retrouve, et la France bien sûr, et on retrouve plus ou moins les mêmes profils de ces nouveaux migrants chinois. Alors, ces nouveaux migrants chinois, pourquoi nouveaux ? Parce que tout simplement, ils proviennent de République populaire de Chine et que pendant très longtemps, on n'en a plus eu, et on n'en a plus eu avec... un nombre aussi important. Bon, c'est pas non plus une immigration ou une migration très importante quantitativement par rapport à d'autres, mais pour la Chine, c'est assez important. Alors, c'est une immigration qui a réapparu à partir de la fin des années 70, mais surtout au milieu des années 80. Alors, il y a 3 flux principaux que l'on a identifiés, notamment lors d'une étude faite en 2000 pour la MIR, ministère de l'Emploi et de la Solidarité. Ces 3 flux, le premier concerne en fait ce que j'appelle, moi, une migration culturelle qui provient de la région du Zhejiang, de la province du Zhejiang en Chine. Pas de toute la province, mais de certains bourgs ou de certaines villes aux alentours de Wenzhou, que l'on appelle les Chaoxiang, c'est-à-dire des lieux qui ont une culture de la migration. Alors, lorsque la Chine a réouvert ses portes et a permis à ses familles de migrants de reprendre contact avec leurs anciens membres, fin des années 70, début des années 80, parce que la Chine a renoué dès ce moment-là avec une politique qui date du 19e siècle et qui, en fait, essaye de faire participer ces migrants, enfin les Overseas Chinese, à la modernisation et au développement de la Chine. Donc, à partir de ces moments-là où la Chine a permis... ces contacts, qui pouvaient aussi être des contacts de voyage, les anciens réseaux se sont reconnectés. Et naturellement, les personnes ont migré là où ils avaient une dynamique d'appui. Et petit à petit, s'est constituée, dans toute l'Europe, une migration du Zhejiang, familiale, que j'appelle une migration en éventail, parce qu'elle peut consistait en 2 frères immigrés aux Pays-Bas, une sœur en Italie et le petit cousin en France.
Oui, ce que vous appelez des appuis, c'est donc en fait des personnes relais qui sont déjà sur place.
Voilà, c'est-à-dire que lorsqu'on parle de migration culturelle, c'est une migration ancienne, c'est une manière de vivre qui dépasse en fait généralement les raisons premières de la migration, qui pouvaient être économiques, politiques, et en fait ça fait partie d'un art de vivre, de migrer. Et, mais aussi, on migre aussi pour améliorer son confort de vie, etc. Donc, quand je parle de dynamique d'appui, c'est qu'il y a un contact, quel qu'il soit, familial, amical, dans ces pays-là, et qui fournissent de l'information, de l'information sur la manière de migrer, de l'information sur où trouver un emploi, comment trouver un emploi, où se loger, etc. Et parfois des lettres d'invitation, l'aide à l'obtention des papiers nécessaires à la migration. Donc ces réseaux se sont reconnectés, et lorsque l'on regarde notamment les diverses statistiques d'entrée des migrants chinois à cette époque-là du Zhejiang, en effet, en règle générale, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, elles se faisaient sous le terme statutaire de regroupement familial. Donc c'est bien ce que l'on pensait. Et donc cette migration a continué. Alors ces personnes-là sont arrivées dans les années 80 en France et en Europe. Elles ont entrepris des activités, en règle générale, dans les niches économiques ethniques de leurs compatriotes. Alors au départ, dans le premier stade de la migration, au niveau statutaire, bon, en règle générale, ce qu'on a trouvé, c'est qu'ils arrivaient majoritairement de manière légale, c'est-à-dire avec un passeport de la République populaire de Chine, et un visa. Alors bon, comment ils l'ont obtenu, ça c'est une autre histoire. Mais enfin, ils sont entrés légalement. Après, bien sûr, beaucoup d'entre eux ont eu un petit séjour irrégulier avant d'obtenir un statut par l'intermédiaire d'une régularisation, depuis les régularisations chevènement. Dans le premier stade de la migration, comme on ne parle pas français, puis en règle générale, il est difficile de trouver d'autres activités, on travaille chez des compatriotes, alors soit dans la couture, soit dans la restauration, etc. etc. Donc on arrive à travailler, on rembourse la dette qu'on a acquise en partant, en règle générale auprès de la famille, parce que pour partir, de toute manière, il faut de l'argent, que ce soit pour payer le billet d'avion, que ce soit pour vivre un petit peu dans le pays d'arrivée. Alors bien sûr, cette dette augmente selon les manières dont vous quittez le pays et vous entrez dans le pays. Alors bien sûr, et après aussi, tout dépend d'auprès de qui vous allez donner cette dette. Ça peut être votre famille, ce qui est le mieux, mais ça peut être aussi des usuriers, etc. Bon, donc pendant un certain temps, 2-3 ans, vous travaillez pour rembourser la dette. Mais ensuite, vous travaillez aussi pour faire vivre la famille, puisque l'argent est renvoyé aussi en Chine. Puisque, bon, en règle générale, c'est d'abord une première personne, et ensuite les autres la rejoignent quand ils peuvent. Ou le couple, et les enfants sont à la charge des grands-parents jusqu'à ce qu'ils aient la possibilité de le faire venir, ce qui peut être très long parfois, ça peut prendre 10 ans. Donc après, pour ceux qui ont obtenu la chance d'avoir un statut régulier, bon, même s'il est temporaire, ben, on a d'autres activités. On essaye, par exemple, de monter sa propre affaire, d'avoir son propre restaurant ou d'avoir son propre atelier, etc. Donc c'est de cette manière-là qu'ils fonctionnent. Ils ont également développé, donc ils travaillent dans les niches économiques, ils ont également développé une grande mobilité au niveau européen. Pour eux, ils ne vont pas en France, ils vont à Ozhou, en Europe. Donc parfois, ils peuvent passer 2 ans en France, bouger en Italie pour aller travailler chez leurs frères, ou parce qu'il y a une opportunité administrative de régularisation, ou en Espagne parce qu'il y a une autre opportunité. Donc il y a une grande mobilité de ces migrants chinois au travers de l'Europe qui est permise par cette dynamique d'appui et par ces différents réseaux qui ont été mis en place au fur et à mesure de l'histoire de cette migration. Les raisons sont parfois un art de vivre, mais c'est certain qu'il y a aussi des raisons économiques. Il s'agit d'augmenter son niveau de vie. Et ces gens-là ne peuvent pas ou ne peuvent plus le faire en Chine. Pourquoi ? Parce qu'en règle générale, ils sont peu qualifiés, parce qu'ils travaillent eux-mêmes dans la confection, etc., même en Chine. Ils n'ont pas de bagages universitaires ou très peu. Et qu'en Chine, aujourd'hui, le marché de l'emploi est comme le nôtre, si ce n'est pire. C'est-à-dire que pour avoir une bonne situation et offrir les biens matériels si recherchés à la famille, il faut avoir ce type de choses, ou alors avoir les connaissances possibles. Et migrer, pour eux, est un moyen de cette réussite économique et sociale. Ça, c'est pour les gens du Zhejiang. y avait un deuxième grand courant qui nous a, enfin, qui a surpris, parce que là, il ne s'agissait pas du tout d'une migration culturelle. C'est à partir de la fin des années 80 qu'on a vu apparaître une migration en provenance des régions du nord de la Chine, ce qu'on appelle les Dongbei, qui est majoritairement composée de femmes. Les régions du Dongbei, c'est le Heilongjiang, Liaoning, Jilin, c'est les régions du nord. Et là, il s'agit réellement d'une migration économique. C'est-à-dire que ces régions-là ont connu, depuis les modifications entreprises par le gouvernement chinois, d'importantes restructurations économiques. Des entreprises d'État, dans ces régions, étaient en règle générale condensées toutes les grosses industries, les grosses entreprises d'État. Et à partir du moment où on a voulu les restructurer ou les vendre, etc., toute cette population, bien sûr, a été mise au chômage, ou ce qu'on appelle faussement au chômage, les siagang. C'est-à-dire qu'ils sont quand même dans l'entreprise, ils perçoivent parfois un petit subside, mais ils n'ont plus de travail. Et bien sûr, comme dans toute restructuration économique, dans tout pays, ce sont les femmes qui sont les premières concernées par ce genre de choses. Donc il y a réellement un marasme économique dans ces régions-là. Et une fois mises au chômage, en dépit du fait qu'elles pensaient à la glorieuse époque de ces industries être qualifiées, puisqu'en règle générale, ces femmes sont comptables, secrétaires de direction, infirmières, auxiliaires puéricultrices, elles se retrouvent en Chine, déjà, puisqu'elles sont âgées, elles ont entre 38, voire 40 et 50 ans, donc elles se retrouvent en concurrence avec des jeunes femmes pour les petits travaux, qui travaillent plus, qui ont plus de ressorts, qui sont plus qualifiés, ne serait-ce que pour apprendre une langue. Et des possibilités de reconversion n'existent pas en Chine. Alors elles se retrouvent au chômage, en règle générale, leurs conjoints aussi, et donc des enfants à charge, enfin un enfant à charge, qui en règle générale est adolescent ou est à l'université. Il n'y a pas d'assurance chômage, il n'y a pas de retraite, donc comment faire ? Et vu qu'il y a eu une libéralisation des informations concernant la migration, etc., elles se sont dit, on leur a dit, des agences de travail, etc., leur ont dit que peut-être, en Europe, elles trouveraient plus facilement du travail. Et on a vu apparaître une vague de Dongbei qui a obtenu notamment des visas Schengen via l'Allemagne, en France et en Europe, mais qui, une fois arrivés ici, se sont heurtés à d'énormes désillusions. Désillusions doubles parce que, d'une part, elles n'ont pas pu entrer sur le marché du travail européen parce qu'elles ne parlaient pas la langue et parce qu'elles n'avaient pas les qualifications requises. Et deuxièmement, travailler dans les niches économiques ethniques chinoises leur posait un problème parce que, bon, il y a une sorte d'a priori entre les deux. Les gens du Zhejiang pensent qu'elles ne sont pas assez travailleuses et les gens du Nord pensent que ce sont des commerçants mal dégourdis et donc elles ne veulent pas travailler chez eux non plus, travailler tant d'heures pour très peu de salaire. En règle générale, elles ont trouvé à s'employer, pour certaines, en tant que nounou ou gardienne, chez des familles du Zhejiang pour s'occuper des enfants de ces familles. Elles étaient en fait très prisées. Pourquoi ? Parce que d'une part, elles parlent très bien ce qu'on appelle le putonghua, le chinois mandarin, qu'elles étaient qualifiées, et qualifiées parce que beaucoup d'auxiliaires puéricultrices, d'infirmières, d'institutrices, etc. Et donc, elles trouvaient du travail là-dedans. En règle générale aussi, elles cumulent du travail dans des hôtels, comme femmes de chambre, en tant que nounou. Et d'autres, certaines s'adonnent à des activités prostitutionnelles, on les appelle les marcheuses de Belleville. Bon, elles ne se reconnaissent absolument pas comme prostituées. C'est en fait leur démarche peut être comparée à beaucoup de migrantes d'autres nationalités qui, une fois arrivées dans les pays d'arrivée, de destination, ne trouvent pas de débouchés. Et donc, ça donne à la seule chose qui leur permet, en fait, de gagner suffisamment rapidement de l'argent et de l'envoyer à la famille. Dans les Dongbei, on a une population majoritaire de femmes. Bon, il y a eu des hommes aussi, hein, alors du Shandong, du Heilongjiang aussi, qui travaillent dans ces niches économiques et ethniques. Mais c'est vrai que les femmes étaient assez nombreuses et présentaient un profil atypique au niveau du processus migratoire. troisième grand courant, ce sont des migrants qui viennent en fait surtout des grandes villes. Tianjin, Beijing, Shanghai, qui ont des profils divers et variés, qualifiés, moins qualifiés, et qui partent parce qu'aujourd'hui, n'importe quel citoyen chinois peut partir. Certes, de 49 à 78, il était impossible de migrer. Et puis, au fur et à mesure, la Chine a libéralisé ses conditions migratoires. Sauf si vous avez un gros problème avec la sécurité publique, vous ne pouvez pas obtenir le passeport. Mais maintenant, n'importe qui peut obtenir un passeport. Pour, enfin, un passeport privé à lui. Et notamment, depuis maintenant 4 ans, n'importe qui peut se présenter avec une carte d'identité pour obtenir un passeport. Et cette libéralisation par les autorités chinoises a été d'autant plus facile que ce sont les pays d'immigration qui ont restreint les visas. Donc, bon.
C'est-à-dire.
Le gouvernement chinois pouvait se permettre de donner des passeports, puisque de notre côté, il n'y avait pas de visa. Donc, je veux dire, bon, c'était pas. Mais bon, le nombre de visas aussi accordés à la République populaire de Chine est assez nombreux dans tous les pays. Donc, les migrants chinois profitent, comme n'importe quel ressortissant dans notre pays, pour voyager. Alors, ça peut être pour raisons touristiques, économiques, etc. Et il y a une sorte. C'est vrai que migrer, c'est quelque chose de bien aussi. Ça fait partie d'une manière de vivre, de réussir, etc. Et en Chine même, la migration est valorisée. Les anciens émigrés qui réussissent sont valorisés, ne serait-ce que par des émissions de télé, que par des discours officiels, etc. Donc réussir à l'étranger, c'est quand même quelque chose d'important. Donc bon, on a cette population des grandes villes qui vient, femmes, hommes, beaucoup de femmes aussi, qui viennent migrer en Europe et qui choisissent de s'y établir ou pendant un certain temps d'avoir certaines activités.
C'était un entretien avec Karine Gerasimov, sinologue et politologue spécialiste des mouvements migratoires chinois.
Well, if I lived in China, I'd have some Chinese children. Yeah, if I lived in China, I'd have some Chinese children.
Selon la revue Migration et Société, en 2000, le Conseil de l'Europe estimait à 200 000 le nombre de citoyens chinois résidant légalement sur le continent et entre 600 et 900 000 en situation irrégulière, si tant est qu'on puisse les dénombrer. Mais ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, la dynamique des flux migratoires chinois accompagne la croissance économique du pays et son inscription dans le paysage international. Les autorités chinoises profitent de ces mouvements. Elles attendent de l'immigration toutes sortes d'avantages. Transfert de fonds, retour d'investissement, accroissement du commerce extérieur, résorption du chômage interne, formation du personnel, construction de réseaux d'influence à l'étranger. Comment l'immigration chinoise est-elle perçue en France ? Pour en savoir plus, écoutez l'émission de demain Made in China.